À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
La Wallonie mise sur une start-up flamande nommée Sparky pour rattraper son retard dans les bornes de recharge ultra rapides. Jamais autant de bureaux n'ont été convertis en logements que ces dernières années à Bruxelles. C'est une véritable aubaine dans une ville où les terrains vierges constructibles sont toujours plus rares. Face à la solidité de l'économie américaine, les investisseurs revoient leurs attentes en matière de taux. Les bourses européennes accusent le coup, tout comme l'euro. Je suis Ondine Moires et vous écoutez le brief.
Brief. Cette info dès 7h.
Voir la Wallonie investir dans une start-up flamande, ça peut paraître un peu étonnant, mais ce n'est évidemment pas sans intérêt. Wallonie Entreprendre, qui est l'outil d'investissement de la région wallonne, avec Ethias et le courtier en énergie Gridlink, ont pris une participation de 24 millions d'euros dans Sparky. Alors on ne connaît pas très bien la société en Wallonie, mais elle est très active en Flandre. Et l'investissement de Wallonie Entreprendre, c'est un peu du donnant-donnant. C'est en tout cas une manière de s'assurer de l'implantation de bornes en Wallonie aussi. Écoutez Olivier Bouchat, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre.
Sparky a une quarantaine de projets en Wallonie d'établissements de bornes de rechargement de fast charging. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons investi dans cette entreprise.
À l'inverse de son concurrent Fastned, Sparky ne vise pas les autoroutes belges, mais plutôt les voies rapides et les zones autour des grandes villes. Et dans tout ça, rappelons que la Wallonie reste très loin derrière la Flandre à ce niveau. En Belgique, près de 9 points de recharge sur 10 sont situés en Flandre. Mais les projets de Sparky en Wallonie se sont accélérés, d'après Olivier Bouchat.
Ces projets se sont accélérés puisque nous avons conditionné le montant de notre investissement à un juste retour économique au niveau de la Wallonie. Donc, en quelque sorte, le montant investi par Wallonie Entreprendre dans Sparky est similaire aux retombées qu'il y aura en Wallonie en matière d'installation de bornes de rechargement de fast charging.
Le gouvernement wallon va atteindre le chiffre de 6000 bornes d'ici 2026. Deux jours de répit. In extremis, la région flamande a accepté lundi soir de rouvrir l'accès au ring ouest aux heures de pointe du soir pendant 48 heures. Deux jours pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de trafic qui ne manqueront pas de percoler dans les communes avoisinantes. Mais ce délai n'a pas suffi en tout cas à calmer la commune d'Odergem qui a intenté une action en justice contre la région flamande. La commune bruxelloise entend faire respecter à la Flandre l'obligation de concertation avec les acteurs touchés par ces travaux et obtenir une pause dans les travaux. L'affaire sera plaidée aujourd'hui. Une loi spéciale de réforme institutionnelle de 1980 prévoit que les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles ne peuvent être fermés qu'après concertation entre les régions, ce qui n'a pas été fait, selon la bourgmestre d'Odergem, Sophie De Vos. Il est vrai qu'un coup de fil de la ministre flamande de la mobilité, Lydia Peters, à ses homologues bruxellois n'aurait pas fait de tort dans le dossier. C'est d'ailleurs l'objet de l'édito de notre journaliste bruxelloise, Pauline De Glume, dans l'Écho du jour. Jamais autant de surfaces de bureaux n'ont été reconverties en logements et en autres fonctions que ces dernières années. Selon les chiffres de l'Agence de développement économique bruxelloise Perspective Bruxelles, le pic de ces transformations de bureaux en logements a été atteint en 2021, mais la tendance s'est poursuivie ces derniers mois, comme l'explique Antoine de Bormann, directeur général de Perspective Bruxelles.
Donc effectivement, on constate que les conversions ont plutôt tendance à augmenter ces dernières années. Dans le même temps, on observe une diminution globale des surfaces de bureaux au sein de la région bruxelloise, hein, le taux de vacances augmente légèrement. Donc on a des espaces de bureaux qui sont inoccupés. Et c'est une occupation, elle a tendance à légèrement augmenter en région bruxelloise. C'est un taux qui dépasse un peu les 8%, mais qui est plutôt à la hausse.
En 2021 et 2022, ce n'est pas moins de 210 000 mètres carrés de bureaux qui ont changé d'affectation pour devenir des logements. C'est loin d'être anecdotique, ça représente près d'un quart des logements neufs mis sur le marché bruxellois. Une aubaine donc pour la région bruxelloise où le mètre carré disponible est plutôt rare, mais surtout un calcul économique pour les promoteurs et les propriétaires investisseurs.
Forcément, à chaque mutation de bureau, il y a des logiques économiques qui se mettent en place. Et donc, le propriétaire identifie en fonction de son immeuble et de l'état du marché ce qui est le plus opportun pour lui, soit de rénover pour en faire des espaces du bureau qui répondent à la demande. On sait qu'il y a aujourd'hui les acteurs qui occupent des espaces du bureau sont demandeurs d'espaces vraiment très qualitatifs, soit plutôt où ce type de bureau d'espace n'est plus réellement attractif et où, en fait, la conversion vers une autre fonction sera plus intéressante et donc en particulier vers du logement. Ce qu'on constate, c'est que le bureau reste en fait une fonction assez forte dans les quartiers centraux de la région bruxelloise, souvent les quartiers qui sont bien desservis en transport en commun. Par contre, les espaces de bureau dans les quartiers décentralisés, eux, ont perdu beaucoup de leur attractivité et donc souvent les conversions que l'on observe sont liées à ces quartiers-là.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, la majorité sort déchirée des débats autour du décret paysage. Dans la nuit de mardi à mercredi, PS et Écolo sont sortis vainqueurs. Leur texte amendé est passé en commission. Le vote a eu lieu vers 2h du matin, après des discussions mouvementées. Le soutien du PTB dans l'opposition en dernière minute a permis de contourner le refus des partenaires libéraux de la majorité. Le MR et les engagés voient cette alliance avec le PTB comme un acte de traîtrise. Eux, ils s'opposaient à toute modification à court terme du décret paysage. Pour rappel, ce décret, il organise l'enseignement supérieur et entre autres la finançabilité des étudiants. Des milliers d'étudiants risqueraient l'exclusion avec ce nouveau système. Mais les chiffres restent théoriques en fait, et c'est là que ça coince. En réalité, il faudra attendre la session d'examen de septembre pour en avoir le cœur net. Et si la réserve fédérale augmentait ses taux plutôt que de les baisser? Jusqu'ici, les marchés pariaient sur une baisse des taux directeurs américains en juin prochain, mais le scénario de taux élevés pour longtemps fait son retour. L'économie américaine reste plus solide que prévu, ce qui risque d'alimenter l'inflation et donc de repousser les baisses de taux. Cette perspective d'un report d'une baisse des taux a provoqué une chute généralisée des indices européens hier. Xander Vlassenbroek, vous êtes spécialiste des marchés. Alors expliquez-nous pourquoi ce changement d'orientation.
Les chiffres qui ont été publiés dans les dernières semaines soulignent en tout cas la solidité de l'économie américaine et notamment la résistance de la consommation. Lundi, c'était les ventes au détail qui étaient presque 3 fois plus élevées qu'attendues. La semaine dernière, on avait eu des chiffres de l'inflation qui étaient aussi plus élevés qu'attendus pour le 3e mois d'affilée. Donc on voit clairement que la solidité de l'économie américaine inquiète en tout cas les marchés puisqu'elle repousse la possibilité d'une baisse des taux. Et lundi, justement, Marie Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, elle a répété qu'il n'y avait aucune hâte chez les décideurs de la Banque centrale américaine pour assouplir la politique monétaire, puisqu'actuellement, la Fed n'est pas encore assez confiante que l'inflation va revenir à la normale.
Mais donc, la situation est différente entre l'Europe et les États-Unis. Ça pourrait être quoi, du coup, les conséquences d'une politique monétaire différente entre les deux continents?
On voit qu'actuellement, le taux des obligations américaines est plus élevé et repart plus fortement à la hausse que le taux des obligations de référence en Europe. Cela s'explique par le différentiel des taux entre la Banque Centrale Européenne et la Fed, puisque dans les prochains mois, la Banque Centrale Européenne pourrait commencer à baisser ses taux dès le mois de juin, tandis que la Fed ne le ferait pas au moins avant l'automne. Alors à court terme, cela devrait faire pression sur l'euro. D'ailleurs, l'euro a déjà perdu 4% depuis le début de l'année, et la semaine dernière, le dollar américain a vécu sa meilleure semaine en 1 an et demi. Et justement, cette baisse de l'euro sur les marchés, ça pourrait inquiéter à nouveau la Banque Centrale Européenne qui elle-même pourrait reporter ses propres baisses de taux. Donc on voit qu'il y a plusieurs boucles de rétroaction qui risquent de se mettre en marche.
Merci Xander. Nouvel épisode dans la saga Mitra. Souvenez-vous, David Solomon, l'ancien patron de la biotech liégeoise spécialisée dans la santé des femmes, avait été viré il y a quelques semaines et il n'a évidemment pas apprécié. À tel point qu'il intente une action contre son ancien employeur pour licenciement abusif. D'après lui, Mitra a invoqué de fausses raisons pour justifier son licenciement et il conteste la totalité des reproches qui lui sont faits. L'ancien CEO estime également que la société wallonne n'a pas respecté le préavis de 12 mois. Il réclame près de 540 000 euros pour la rupture de son contrat et plus de 2 millions d'euros de warrants qui ont déjà été émis. Un warrant, pour rappel, c'est un droit d'acquérir des actions à des conditions favorables. Par ailleurs, on attend toujours la décision du tribunal de l'entreprise de Liège sur deux requêtes déterminantes pour l'avenir de Mitra. Proximus se sépare de quelques bijoux de famille. Non pas que l'opérateur télécom soit particulièrement serré financièrement, mais par contre, il manque d'espace pour abriter son importante collection d'œuvres d'art. On parle ici de 600 œuvres généralement exposées dans les différents bâtiments et bureaux du groupe. Mais avec la réduction du nombre de mètres carrés occupés, ça devient un peu étroit pour tout accrocher au mur et dans les couloirs. Arnaud Martin a rencontré Stéphane De Clercq, le président du conseil d'administration de Proximus. Il rappelle les origines de la collection d'œuvres d'art.
Donc l'idée à la base, c'est qu'on voulait mettre les employés de la société au milieu d'une créativité, d'une nouveauté, des œuvres d'art qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, au début, c'était peut-être un peu plus, mais maintenant, la maison mère Proximus donne à l'ASBN, Proximus Art, chaque année un montant de 250 000 euros. Mais maintenant, bien sûr, avec l'argent qu'on veut obtenir, on aura plus de moyens, on pourra donc développer une politique d'achat qui est beaucoup plus consistante et peut-être avec quelques risques et quelques grands noms, on verra comment on peut dépenser l'argent qu'on va obtenir.
Et pour éviter un stock en dépôt trop important, Proximus a donc décidé de se séparer d'un tiers de ses œuvres. 70 d'entre elles seront revendues via la célèbre maison Christie's, qui a prévu une vente aux enchères internationale en septembre prochain. Le personnel pourra également acheter des pièces. Le choix des œuvres vendues a été confié à un groupe d'experts, avec notamment comme mission de ne pas affecter la qualité générale de la collection. Et la vente pourrait rapporter entre 1,5 et 2 millions d'euros. Mais Stéphane De Clercq en espère un peu plus. C'est déjà la fin de ce brief. Et si vous aimez notre travail, sachez que 6 podcasts de l'Écho, dont le brief, sont nominés aux Belgian Podcast Awards. Alors prenez quelques secondes, s'il vous plaît, pour voter. Ça nous aidera beaucoup. Je vous glisse le lien vers le vote dans les notes de l'épisode. Merci de nous écouter. Et merci à Laurent Fabry qui était à la préparation de cet épisode. Je vous dis à demain. Salut!
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.